Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse richement, notre Père Céleste vous aime, et ce matin, enfin, je ne sais pas si vous écoutez le matin ou le soir, je voudrais vous faire part d'une réflexion et qui va certainement vous aider, comme cela m'a aidé aussi, de nombreuses fois dans ma vie. Je vais faire une lecture dans le livre de Mormon, dans un passage du livre de Mormon qui s'appelle « Doctrine et Alliance » au chapitre 14, verset 7. « Et si tu gardes mes commandements et persévères jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle, don qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. » Ça rejoint ce texte qui nous dit « Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé » dans Matthieu 24. Bien sûr, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais nous devons persévérer, et ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu persévèrent. L'existence n'est pas toujours facile sur cette terre, c'est parfois bien difficile. Et nous avons des choix à faire, et il y a une multitude de possibilités souvent qui se présentent à nous, et nous sommes des voix un petit peu en confusion. Prions. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ces instants, de permettre que nous puissions avoir un moment de paix et de tranquillité pour pouvoir écouter ton conseil. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai remarqué que nous faisons en fait les bons choix quand on a pris le temps d'examiner les options, de réfléchir aux conséquences, et puis de parler de tout ça à Dieu. C'est depuis que Dieu a ouvert le temps du rétablissement de toutes choses, eh bien, nous savons mieux quel est le but de notre vie ici-bas, et nous en connaissons plus sur la vie après notre existence terrestre. Et en fait, toutes ces informations données par Dieu dans ces derniers temps nous donnent des bonnes idées sur l'avenir, parce que... ça nous aide à nous conduire dans les actions présentes. Le présent. Un peu partout, on nous conseille de vivre le moment présent. Moi-même aussi, je conseille souvent aux gens de vivre dans le moment présent. Le passé, c'est fait. L'avenir, c'est pas encore gérable. Mais il faut quand même pas non plus exagérer dans le temps présent. C'est pas mal de vivre dans le temps présent, mais il y a un côté négatif aussi à cela. Quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit comment les gens dépensent aujourd'hui, profitent aujourd'hui, sans se soucier vraiment de l'avenir. Et je crois que notre présent et notre avenir seront meilleurs si nous gardons continuellement l'avenir à la pensée. Alors on prend des décisions dans le présent, c'est vrai, mais demandons-nous toujours, mais où est-ce que ça va me mener ? Il y a des situations où notre choix, c'est de faire quelque chose ou de ne rien faire. C'est une possibilité. Nous vivons à la campagne et nous avons des chats. Et l'autre jour, je regardais un chat qui voulait attraper une souris. Et je le regardais et la petite souris courait à gauche, courait à droite, par-ci, par-là, et le chat ne bougeait pas, il était tapis dans l'herbe. Mais il ne bougeait que quand la souris lui tournait le dos ou quand elle se trouvait derrière un objet qui l'empêchait de voir le chat. À ce moment-là, le chat avançait vers elle très doucement. Ça a duré un bon moment et... aussitôt que la souris pouvait le voir, le chat s'arrêtait donc, et faisait semblant d'être indifférent à tout ce qui se passait. Finalement, le chat s'est trouvé assez près pour bondir et attraper la souris. J'ai vu cela et j'ai rien fait. J'ai juste observé. J'aurais pu faire du bruit pour alerter la souris, lui faire peur, la faire partir. Mais je n'ai rien fait. Je me suis contenté de regarder, alors que l'issue fatale, finalement, ça rapprochait de plus en plus. Et je me suis pas demandé, mais où est-ce que tout ça va amener la souris? Et quand ce qui était prévisible est arrivé, c'était trop tard, la souris était morte. Cette histoire vraie, c'est un peu comme une parabole. Cette histoire, elle s'applique aux choses que nous voyons dans notre propre vie et aussi dans la vie des gens autour de nous. Quand on voit des menaces s'approcher subrepticement de quelqu'un que nous aimons, nous avons le choix de parler, d'agir ou de rester silencieux, de ne rien faire. On devrait se poser la question dans des moments comme ça, mais où est-ce que cela va mener cette personne ? Et y réfléchir sérieusement devant Dieu. Vous savez, dans les cas où les conséquences risquent d'être graves, nous ne pouvons pas nous permettre de ne rien faire. Nous avons le devoir de mettre les gens en garde, mais de manière appropriée, évidemment, pas brutalement, n'importe comment. Maintenant, le plus souvent, nous avons le choix entre une action ou une autre action, entre une parole à dire et une autre parole à dire. C'est pourquoi je dis qu'il faut que ça soit fait de manière appropriée. Et ça encore, c'est des choix qu'on doit faire. Et des fois, nous avons le choix entre deux options qui sont bonnes toutes les deux. Et là aussi, la question est, où est-ce que tout ça va me mener ? Parce que tout ce que nous choisissons, tout ce que nous décidons de faire et d'être, eh bien ça, il y a des conséquences. Beaucoup de nos contemporains passent du temps devant la télévision et devant toutes sortes de jeux. C'est un choix, mais à chacun de ces choix est associé ce qu'on appelle le coût de substitution. J'explique. Si je passe du temps à faire une chose, je rate l'occasion d'en faire une autre. Il nous faut vraiment évaluer ce que nous perdons du fait du temps que nous accordons à une activité. Beaucoup de temps, même si cette activité n'est pas forcément mauvaise, mal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prédication que je vous avais donnée, où je disais qu'on peut toujours faire et être mieux. Mais vous voyez, le simple fait qu'une action ou une parole est bonne, ce n'est pas une raison suffisante pour le faire ou pour la dire. Il y a des choses à faire qui sont mieux que bonnes. Il y a des choses à dire qui sont mieux que bonnes. Et c'est à ces choses, à ces paroles, qu'on doit accorder la priorité. Je lis beaucoup de commentaires sur l'Internet, sur Révélation Bible. Par exemple, je m'aperçois que des gens disent ce qu'ils pensent, ils n'oseraient jamais me le dire en face. Parce que quand on est en face d'une personne, on n'est pas vulgaire, grossière, à moins d'être soi-même un peu étrange. Ou alors, je remarque aussi que les gens ne lisent pas les commentaires des autres et ne s'en soucient pas et répondent du tac au tac. Ou alors d'autres personnes font des commentaires uniquement sur ce que j'ai écrit, mais n'écoutent pas les prédications. Je m'en aperçois parce que ce qu'ils disent en général n'a rien à voir avec ce que j'ai enseigné dans mes prédications audio. On réagit très vite, on réfléchit pas. Nous devons renoncer à certaines bonnes choses, afin d'en choisir d'autres qui sont meilleures. Il y a des choses à faire, des choses à dire, des choses à écrire qui sont mieux que bonnes. Il faut réfléchir avant de faire, avant de s'exprimer. Je pense que vous êtes tous au courant, en tout cas les plus anciens sur Révélation Bible, qu'il y a, en 2015, j'ai pris la décision de renoncer à la vie de château, Nous avions acheté un château pour recevoir des gens dans la difficulté. Nous avions 23 chambres à coucher et nous recevions des gens qui avaient des problèmes avec la drogue, avec toutes sortes de difficultés de la vie. Et nous les aidions à se remettre dans le droit chemin. Et puis, il est arrivé un moment où certaines personnes nous ont mené la vie un peu trop difficile et j'ai pris la décision de renoncer au château. Mais ce n'était pas sur un coup de tête. C'était parce que je savais que je pouvais vivre une chose meilleure. Et il me dira, bon, vivre quelque chose de meilleur que la vie de château, ben oui, ça se peut aussi. Je savais, après réflexion, après prier, que je pouvais vivre quelque chose de plus beau, de plus productif, et puis surtout avec moins d'humains difficiles et de problèmes financiers inutiles. Mais il m'a fallu réfléchir et agir. La vie de chrétien, c'est une bonne chose, mais on peut vivre une vie de chrétien mieux que simplement laisser la vie de chrétien se dérouler comme ça. Et la vie de château, c'était bien, mais on peut vivre quelque chose de mieux, de plus efficace. C'était déjà très bien ce que nous vivions, mais on pouvait faire encore mieux. Alors, j'ai élargi mes perspectives. J'en ai parlé, et des gens spirituels et intelligents m'ont compris et m'ont suivi. Et nos décisions ont toujours un effet sur l'avenir. Et voilà pourquoi il faut sonder les Saintes Écritures pour y trouver des exemples. Dans les Écritures, on trouve aussi beaucoup de personnages et ça nous aide à chacun de nous, ça nous aide en quelque sorte à s'identifier à des personnages que nous préférons dans la Bible. La Bible nous aide à savoir qui nous sommes et ce que nous avons à penser de nous-mêmes et des autres aussi. C'est un livre où on apprend beaucoup de choses sur soi-même et sur la vie en général et en particulier. J'espère que vous savez pourquoi je vous donne cet enseignement et ces conseils. J'aime mon Père Céleste et je vous aime, même si pour plusieurs d'entre vous, je ne vous ai encore jamais rencontré en vrai, comme on dit. Mais je peux vous assurer que le plan de Dieu pour vous est un plan de bonheur, vraiment un plan de bonheur. Je désire rien d'autre que de faire et de dire ce qui est vrai. Et je désire vous encourager à faire et à être ce que notre Père Céleste a établi comme étant le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vie éternelle. Alors on dit toujours Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est une belle phrase, c'est vrai, mais elle a un sens, il faut chercher à savoir, mais ce chemin, comment on marche sur ce chemin? Lisez les Saintes Écritures, apprenez, et vous pourrez faire les choix les meilleurs. De temps en temps, agir, de temps en temps, ne pas agir, parler ou parler mieux, ou faire encore mieux, la Bible va vous inspirer. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait de que vous lisiez la Bible. Vous allez vous apercevoir que c'est plus que simplement l'histoire du bonhomme qui s'appelle Joseph, ou du bonhomme qui s'appelle Jacob, ou de la bonne femme qui s'appelle Marie, c'est plus que des histoires. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction, afin que nous puissions faire des choix dans notre vie qui sont judicieux, qui sont spirituels et qui portent à conséquence de façon à glorifier Dieu et à nous donner une bonne vie. Le choix que mon épouse et moi avons fait de quitter le château, c'était pas facile. Nous avions vécu là pendant 26 ans, nous avions pris des habitudes. Il faut des fois briser les habitudes pour vivre quelque chose de plus riche, de plus beau, de plus grand. Et puis, ça peut prendre du temps pour se décanter, pour que la chose que nous avons décidée prenne forme. Mais moi, je savais que je ne quittais pas quelque chose de très beau pour quelque chose de moins beau. Je savais que je quittais quelque chose de très beau pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus beau. Je quittais quelque chose d'efficace pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus efficace. Et j'acceptais même de me séparer de certaines personnes qui étaient en quelque sorte des freins dans ma vie. Il faut savoir aussi faire de tels choix. Il y a des gens qui sont véritablement toxiques. Et des fois, c'est difficile de faire des choix, mais demandez à Dieu de vous aider, de vous conduire, de vous diriger, de permettre que les circonstances arrivent qui rendent votre choix plus simple, plus facile, et que les autres l'acceptent avec plus de facilité, et que les choses se passent bien. Eh bien, pour nous, tout s'est bien passé, et tout continue à bien se passer. Plusieurs d'entre vous me demandaient, mais alors comment se passe votre nouvelle vie dans votre nouvelle communauté? Ben pour le moment, on en est à déballer les cartons. Et ben c'est bien, là encore, on fait des choix. Oh, ben pourquoi est-ce que je garde ce vieux truc? Allez, hop, il y a des choses qu'on jette, il y a des choses qu'on garde. Il y a des choses qu'on était obligé d'acheter parce que ça nous manquait, parce que c'est très grand ici, il y a besoin de remeubler, de voilà, c'est magnifique. Vous savez, la vie... il faut que ça bouge, c'est toujours pareil, c'est ennuyeux. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que c'est ennuyeux si ça ne bouge pas. C'est bien de faire bouger les choses. Alors on peut les faire bouger d'une façon médiocre ou alors les faire bouger de façon magistrale pour la gloire de Dieu et pour son bien-être à soi et le bien-être des autres. C'est toujours ces trois choses qui doivent occuper votre vie. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça va glorifier Dieu ? Est-ce que ça va aider les autres? Et puis, est-ce que ça va me bénir, moi? C'est important, les trois choses. Si une des trois choses n'entre pas dans votre choix, alors renoncez à ce choix et choisissez autre chose. Quelque chose où Dieu peut être glorifié, où vous êtes bien et où les autres en bénéficient. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Je ne sais pas quels sont vos problèmes, mais je suis sûr que vous allez pouvoir adapter ce que j'ai dit à vos problèmes, aux choix que vous devez faire, et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur d'aider mes frères et sœurs, de les conduire sur ce chemin, et de les aider à trouver dans la Bible les choses dont ils ont besoin, les exemples dont ils ont besoin, les identifications. Merci Seigneur Jésus, sois béni mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. Dimanche, on continue notre étude, hein. Au revoir.